Europe 1. Europe 1.
Ondelat raconte.
Bonjour à tous. Je vous raconte aujourd'hui une histoire d'homme, l'homme qui lâche tout pour devenir moine bouddhiste. Et cet homme, il est en face de moi. Bonjour Christophe Forêt.
Bonjour Christophe.
Vous racontez cette histoire dans un livre qui vient de paraître chez Albin Michel, S'aimer enfin. Vous êtes psychiatre à Paris et vous lâchez tout, votre boulot, vos amis, vos amours, pour un monastère bouddhiste qui est installé en France, dans le Périgord. Je ne donne pas tout de suite la fin de l'histoire, qui est tout aussi surprenante et intéressante que le début. Je précise qu'il ne s'agit pas de faire ici la promotion du bouddhisme tant que religion. Je n'ai pas d'intérêt dans le bouddhisme. Je ne veux convertir personne au bouddhisme. Je ne vous juge pas, ni en bien, ni en mal. Je ne vous adule pas. Je ne vous admire même pas. Je ne fais que vous raconter et vous écouter. Et que chacun fasse son miel de tout ça. Voici donc cette histoire, le psychiatre du Bouddha, je l'ai écrite avec Quentin Mouchel, réalisation Céline Lebras, mise en onde Jean Lénaf. En 1996, quand tout commence, Christophe Forêt est un jeune trentenaire brillant. Il est psychiatre à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif, au sud de Paris. Il accompagne des malades en fin de vie. Pour être honnête, à ce moment-là, ça fait déjà plusieurs années que le bouddhisme est dans un coin de sa tête. Il a lu tout un tas de livres sur le sujet, ça l'intéresse. Mais c'est une rencontre qui va le faire basculer. Un soir de décembre 96, un de ses copains médecins de l'hôpital l'invite à dîner. Tu verras, j'ai invité un gars que je connais. C'est un lama occidental de tradition tibétaine. C'est un moine bouddhiste. Tu verras, il est intéressant. Il n'en doute pas. Et nous voilà donc à table. Le moine se fait appeler Lama Punso. Il est belge, la quarantaine, une bouille sympathique, l'air affable. Et il appartient à la lignée de Kagyu, l'un des quatre courants du bouddhisme tibétain. Et vous vivez où ? Je vis dans le Périgord noir. Je suis le directeur spirituel d'un monastère qui est installé dans le Périgord. Oui, oui. Et là, il raconte que son monastère a été fondé par des moines tibétains en exil en 1975. Ils avaient fui le Tibet après l'invasion chinoise. Et il se trouve où, votre monastère ? Pas loin de Périgueux, dans la campagne. Tout de suite, entre Christophe et Lama Punso, le courant passe. Christophe est fasciné par son parcours. Le type a accompagné bénévolement des patients en soins palliatifs. Il a déjà fait 2 retraites fermées de 3 ans. Totalement coupé du monde. Fascinant. 6 années passées à méditer et à faire des exercices spirituels de 5h du matin à 22h le soir. Dans son livre, Christophe écrit « Je me sens en connexion immédiate avec lui. Dans les tréfonds de mon esprit, les rouages rouillés se remettent en mouvement. Je ressens une joie, une fébrilité que je ne m'explique pas. » Et ça parle de spiritualité, de soins palliatifs, du deuil. Et voilà qu'ils se mettent à parler d'organiser ensemble un stage bouddhisme et deuil au monastère pour confronter leurs 2 manières d'approcher le deuil. L'approche spirituelle bouddhiste et l'approche psychologique du docteur Christophe Forêt. Et ce faisant, Christophe vient de mettre le doigt et la main et tout le bras dans une histoire qui va l'amener très loin et qui va changer sa vie. Et donc, quelques mois plus tard, début 1997, Christophe débarque pour la première fois au Dakpo, le fameux monastère de Saint-Léon de Vézère, dans le Périgord. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble, un monastère bouddhiste perdu en pleine campagne périgourdine ? Eh bien, à une ferme. Une grande ferme, posée sur un versant ensoleillé de la côte de Jaure. Et juste en bas, passe la rivière la Vézère. C'est beau, c'est charmant, c'est bucolique. Christophe s'y sent bien, tout de suite. Et d'entrée, Lama Punso l'invite à assister au rituel de Mahakala, et donc à le suivre dans le temple. Ils se déchaussent, ils entrent dans une grande pièce avec au fond un autel sur lequel est posée une statue du Bouddha. Et tout autour, des portraits des maîtres bouddhistes et des statuettes. Et surtout des gens. Le temple est rempli de moines et de moniales, assis en tailleur sur deux rangées comme ça. Et au milieu, il y a des gens assis sur des coussins de méditation qui se mettent à psalmodier des prières et des mantras en tibétain. Et tout ça accompagné de percussions, de tambours, d'instruments traditionnels qui font des sons très stridents. Christophe les regarde un peu dubitatif. Il ne comprend rien à ce qui se passe. Il est complètement perdu. Et assez vite d'ailleurs, il décroche. Dans son livre, il écrit « Tout me semble trop exotique. Une partie de moi se sent attirée par ce qui se déploie, mais ma rationalité occidentale se braque. Il me semble que cette mascarade orientale n'a rien à faire sous nos latitudes. Ma raison n'accepte pas ce qui se passe. » Petite résistance. Mais il trouve les gens qu'il croise intéressants, accueillants, bienveillants, et ils ont l'air heureux. Alors sa rationalité occidentale a beau se braquer, ici il se sent bien. Il se sent chez lui.
Europe 1, on de la raconte.
Pendant les deux années qui suivent, Christophe revient régulièrement à Dakpo. Pour les séminaires, mais en plus pour suivre l'enseignement bouddhiste. Parce que le lieu le calme, le lieu l'apaise. Depuis un bout de temps, il a un peu le sentiment de se perdre dans sa vie de psychiatre parisien. Pire que ça, il se demande s'il n'est pas une imposture. Un type qui prétend aider les autres, mais qui ne va pas bien. Mais bon, à côté, il a gardé sa vie. Par exemple, pendant l'été 98, il part en vacances aux Bahamas. C'est pas bouddhiste comme destination. La mer turquoise, le sable blanc, le bronzage, on est très loin du Dakpo. Quoique, parce qu'il y pense beaucoup. Il a une boule au ventre, il se sent angoissé. L'impression que sa vie est quelque chose d'absurde. Un hamster qui tourne dans sa cage. Alors dans sa chambre, il essaye de méditer, comme il l'a appris au Dakpo. Mais ça n'efface pas son malaise. Tu as tout essayé pour t'apaiser. Mais tu vois bien, rien ne marche. Quitte cette vie où tu t'étioles. Christophe, tu n'as plus rien à perdre. Va vivre à Dakpo. Tente le tout pour le tout. Vous avez bien entendu. Dans cette chambre d'un hôtel des Bahamas, Christophe envisage d'aller vivre au monastère. Ce qui veut dire tout quitter. Et pour commencer, mettre un terme à sa vie de couple. Et ne plus gagner d'argent non plus. C'est une folie. Et pendant des mois, il hésite. Et un coup, il y va, et un coup, il n'y va pas. Il lui faut un an pour prendre sa décision.
Et je me dis, c'est maintenant ou jamais, mon gars. C'est maintenant ou jamais. Parce que si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais, ce saut dans le vide, d'aller à la rencontre de ce quelque chose que tu sais intuitivement être potentiellement source de réponse par rapport à ton épuisement. Et c'est vrai que j'étais en début de burn-out. Véritablement, j'arrivais de moins en moins bien à aider les gens. Je me sentais de plus en plus en perte de vitesse.
Et là, il se donne un an de plus pour détricoter sa vie parisienne. Qu'il avait mis tant de temps à construire. Il a des patients, tout de même. Il ne peut pas les lâcher d'un coup. Et puis des amis à qui il faut expliquer. Certains sont surpris. D'autres s'y attendaient un peu, mais tous le soutiennent sans réserve. Ce que je croyais stable, acquis et définitif, s'évanouit peu à peu. Je suis sidéré de ce que je mets en place. Waouh ! Et puis vient le moment où il faut partir. Quitter le grand appartement haussmannien de la place Pigalle, Christophe a demandé à deux amis de l'accompagner dans le Périgord noir. Et ils viennent le chercher en camionnette. Eh oui, Il n'a pas complètement renoncé à tout. Il emmène son vélo, ses meubles, de la vaisselle, des livres et des vêtements en pagaille. Des objets qui le relient un peu à sa vie d'avant. Et puis, 6 heures de route plus tard, le voilà à Dakpo. Il s'installe dans une petite cabane en bois de 10 mètres carrés, en pleine nature, en bordure d'un bois. Un minuscule coin cuisine, un lit et une armoire, c'est tout. Il n'a absolument pas de place pour mettre tout son barda. D'autant qu'il faut qu'il s'installe un espace de méditation, un hôtel, avec un Bouddha. Alors il garde quelques vêtements, des livres, et il donne tout le reste aux autres résidents. Pas de connexion Internet, bien sûr. Un téléphone portable, il en a un, mais ça ne capte pas. La première nuit, impossible de dormir. Alors il se lève, il ouvre la porte, il hume l'air pur du Périgord, il entend le vent souffler, il n'en revient pas d'être là. Le lendemain, Lama Punso lui annonce le programme. « Christophe, pendant un temps, tu ne vas rien faire, rien, aucun projet. Tu vas juste être là et tu vas arrêter de prendre en charge les gens. Tu vas te déconnecter de ta profession. »
Il m'a complètement sevré. Il a sevré le toxicomane de l'action et de la relation d'aide dans laquelle j'étais. En fait, il a contrecarré cette compulsion à aider les autres et en m'oubliant moi-même. Il a cassé ça.
Et donc, il ne fait rien. Il marche, il arpente le monastère et les alentours. Et puis, à un moment, il s'assoit à une table où un moine et un laïc comme lui sont en train de fabriquer des petites figurines avec de la farine d'orge et du beurre congelé. C'est pour les offrandes. Il les regarde faire et il est pris d'une angoisse. Je viens de quitter ma vie parisienne de psychiatre pour me retrouver au milieu de nulle part avec des gens qui confectionnent des objets en beurre. Il se dit, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors il rejoint sa cabane, il s'assoit et il médite face au Bouddha. Calme-toi. Calme-toi, tout va bien. Regarde où tu es. Tu vis ici maintenant. Fais-toi confiance, accueille ce qui vient, ouvre ton cœur, arrête de lutter. Et tout doucement, il lâche prise. Ce qui se passe à cet instant n'est pas de l'ordre de la raison. Quelque chose d'autre prend le relais, mais j'en ignore la nature. Je lâche prise sur cette volonté farouche de contrôler ce qui est. C'est décidé. Je vais me jeter délibérément dans l'inconnu pour découvrir ce qu'il y a au-delà. Et comme ça, au fil des semaines, Christophe apprend à ralentir. Il trouve son rythme jusqu'à se dire avec certitude, j'ai fait le bon choix. Et à partir de là, il se met à étudier, à lire des ouvrages sur le bouddhisme, à assister à des conférences, à l'enseignement des maîtres tibétains. Et il rend aussi des services à la communauté, le ménage, la cuisine. Christophe a décidé d'aller jusqu'au bout. Il va devenir moine.
Ondelat raconte sur Europe 1.
Et maintenant, ça fait 3 mois qu'il est là. Et c'est aujourd'hui qu'il devient moine. La cérémonie a lieu dans la maison des lamas. Tous les autres sont assis en cercle et lui, au milieu. Et Lama Punso est en face de lui. Il commence par lui rappeler l'éthique monastique et il lui donne sa robe de moine en laine bordeaux. Il l'enfile, il la noue avec une ceinture, on lui met un grand châle sur les épaules. Et là, tous les moines se lèvent et le serrent dans leurs bras. Il fait partie de leur famille. Dans son livre, il écrit... On dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais je dois reconnaître que l'habit a vraiment fait de moi un moine. Dès l'instant où je revais cette robe, je sens couler dans mes veines une indéfinissable influence spirituelle qui m'imprègne jour après jour. Durant les sessions de méditation, je me surprends à caresser ce tissu avec respect et étonnement, comme pour en sentir la réalité. Toucher cette robe qui me met en relation avec cette longue tradition monastique que le Bouddha a lancée. Quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Devenir moine tibétain implique la chasteté. Plus de rapports sexuels.
Comme si l'énergie sexuelle non actée se mettait ailleurs et permettait de nourrir la pratique spirituelle. Il y a quelque chose d'assez étrange en fait qui s'opère à ce niveau-là. Mais ce qui est clair, c'est que la sécurité relationnelle qu'on établit avec la personne quand on est porteur de cette robe crée quelque chose de sécurité chez la personne qui vous parle d'une manière qu'il n'aurait peut-être pas parlé à un psy ou à une autre personne.
Et la suite logique, c'est une retraite, une longue retraite de 3 ans, coupée du monde. C'est quelque chose. Alors il s'y prépare, mais il doute encore. Est-ce qu'il n'était pas plus utile quand il était psychiatre ? Christophe, tu es médecin, ta vocation est d'aider les gens, non ? Comment répondre à ton aspiration si tu restes moine, en retrait du monde, en t'engageant dans une retraite de 3 ans? Il en est là, quand avec une dizaine de moines, il part pour un pèlerinage en Inde. Il atterrit à New Delhi. Ils vont suivre les enseignements d'une université de sa lignée bouddhiste. Le lendemain à 7h, un jeune moine vient le tirer du lit.
Viens, viens vite, il y a un cours qui commence dans 15 minutes.
Il fait un froid de gueux et Christophe se dirige vers la salle de cours. Il s'assoit au fond, emmitouflé dans une couverture, et pour être honnête, il pique un peu du nez. Il n'écoute qu'à moitié, sauf qu'à un moment, il entend le professeur dire qu'il y a 4 activités laïques qui sont compatibles avec la démarche de l'éveil. En gros, 4 métiers que l'on peut exercer tout en restant dans une démarche spirituelle.
And one of them is medical doctor.
Le professeur vient de dire que le métier de médecin est compatible avec une démarche spirituelle. Et ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Quelques jours plus tard, il obtient une consultation avec le médecin personnel du Dalai Lama, à New Delhi. Il n'est pas malade, il veut juste son avis sur son état de forme. C'est un vieux monsieur. Il l'ausculte, il reste silencieux un bon moment, et en anglais, il lui dit
« Everything is okay. But there is a tension somewhere. There is a tension in your mind. »
Il lui a trouvé une tension dans son esprit.
« Je vais te donner un conseil. Il faut que tu regardes l'horizon. Imagine que tu es au bord de la mer. » Tu regardes tes pieds, puis tu relèves la tête et tu laisses lentement ton regard se dresser vers l'horizon. Et là, tu vas voir ce que tu cherches et que tu ne trouves pas encore.
Le lendemain, toute la petite équipe de moines du monastère de Dakpo prend le train et arrive à Kushinagar, une petite ville au nord de l'Inde. C'est là que le Bouddha serait mort. Ils entrent dans le temple. Il y a une statue de Bouddha gigantesque, 6 mètres de haut, recouverte de voiles de soie multicolores. Et il se met à prier. Et pendant cette prière, Christophe sent une violente émotion le submerger, qui fait remonter des images du passé. Il revoit tous ces gens qu'il a accompagnés en fin de vie, tous ces malades du sida notamment. Dans sa tête, il les revoit, leurs regards, leurs souffrances, et d'un coup, il s'écroule en pleurs. Il écrit. Derrière ces images du passé se dessine confusément le souhait de revenir aux côtés de ces gens, d'être là en tant que médecin, présent auprès d'eux. L'envie de trouver les mots pour apaiser, pour les aider à sortir de leur détresse. Vous avez bien compris que Christophe a bien noté qu'on peut être à la fois médecin et dans une démarche spirituelle bouddhiste. Il songe à exercer à nouveau son métier, puisque le professeur lui a dit que c'était compatible.
Europe 1, on de la raconte.
Et le voilà à Katmandou, au Népal. Et aujourd'hui, il doit accompagner une jeune femme lama chez le médecin. Elle tousse beaucoup, on lui a demandé son avis, il pense que c'est une bronchite. Diagnostic confirmé par le médecin népalais, peu importe. Ce qui va le marquer, c'est la remarque que va lui faire la jeune femme en sortant.
« Oh ben ça fait du bien, hein, de s'en remettre à un médecin. Qu'est-ce que c'est réconfortant ?»
Cette phrase vient piquer quelque chose qui le travaille depuis un moment. Est-ce qu'il n'était pas plus utile en étant médecin ?
Pour l'instant, dans sa tête, c'est ténu, mais ça prend forme lentement. Le bouddhisme dit que toutes les situations font comprendre des choses et permettent d'avancer. Toutes. Quelques jours plus tard, le voilà à Kalimpong, au pied de l'Himalaya. Pour sa lignée spirituelle, c'est un endroit très important puisque c'est là que vit le chef de la lignée Kagyu, le Karmapa. Et ça fait 2 jours qu'il est là. Il demande à le voir, le Karmapa, en personne. Il a décidé de lui exposer ses interrogations. Il lui raconte tout, son parcours, sa décision de quitter Paris, son choix de devenir moine et la retraite de 3 ans qu'il est en train de préparer. Mais surtout, il lui dit « Votre sainteté, c'est difficile de renoncer à la médecine. » Le Karmapa laisse passer un long silence, il le regarde avec un air grave et il lui dit « Tu ne dois pas renoncer à la médecine. » Pendant 2 jours, il tourne cette réponse dans sa tête et il demande à le revoir. « Votre sainteté, vous m'avez suggéré de ne pas renoncer à la médecine. Est-ce que ça veut dire que je peux retourner dans le monde et redevenir médecin ?»« Oui. Mais ça n'est pas une erreur de quitter la voie monastique ?»« Non. Mais vous êtes sûr, ça n'est pas une erreur. Si je vous demande de retourner dans le monde, vous êtes d'accord ?» Et là, le Karmapa éclate de rire. Mais tu es libre. Tu es libre de choisir ton chemin. Non, ça n'est pas une erreur de redevenir médecin dans le monde. Néanmoins, si c'est cette voie que tu prends, je souhaite te faire quelques recommandations. En tant que médecin, j'aimerais que tu continues à écrire, que tu continues à partager, à faire des conférences, à transmettre largement ce que tu connais, ce que tu as appris. Tu as ma bénédiction pour ça. C'est à toi de choisir. Le pèlerinage se termine par un séjour de quelques jours à Bodhgaya, en Inde, là où le Bouddha aurait atteint l'éveil. Un après-midi, Christophe est en pleine méditation, il fait une chaleur étouffante et une vieille dame, indienne, lui fait une offrande.
C'était en méditation à Bodhgaya lors de ce pèlerinage en Inde. Il y a une très très vieille dame qui arrive. Manifestement, elle n'avait pas grand-chose. J'étais en méditation, en silence comme ça. Elle s'approche tout doucement et elle dépose à mes pieds un fruit, une petite boisson et un petit billet de banque. Moi, j'étais super gêné parce que je voyais qu'elle n'avait pas grand-chose. Elle voyait bien que j'étais un occidental, mais ce n'était pas à ça qu'elle s'adressait. Elle s'adressait à cette robe et à cette robe et à cet enseignement du Bouddha qui disait, qui invite à la générosité, qui invite à la connexion à sa dimension intérieure.
Dans son livre, Christophe Fauré écrit « Ces éclats de vie si fragiles, si fugaces, si précieux, me montrent ce que je suis sur le point de quitter. Pourrais-je préserver cette tendresse de l'instant en retournant dans le monde ?» Il y a 3 ans, Christophe décidait de tout quitter pour rejoindre le monastère de Dakpo. Aujourd'hui, il décide de revenir à Paris et de redevenir médecin. Voilà pour ce récit tiré de votre livre, Christophe Fauré, « S'aimer enfin » aux éditions Albin Michel, qui vient de sortir. Donc vous êtes à nouveau psychiatre,
oui,
à Paris.
Voilà, je suis rentré à Paris en mai 2003. Donc c'est vraiment une histoire que j'ai mis longtemps
à écrire,
oui, parce que vraiment c'était difficile d'écrire cette
histoire. Vous êtes psychiatre en libéral ou vous êtes retourné dans cette unité de soins palliatifs?
J'étais pendant très longtemps, là maintenant je suis en psychiatre en libéral, j'étais libéral et en unité de soins palliatifs pendant encore de très nombreuses années après mon retour.
Formellement, vous n'êtes plus moine?
Non, plus du tout.
Mais vous êtes toujours bouddhiste?
Ah oui, profondément, oui.
La robe, où est-elle?
La robe, elle est rangée. Elle est rangée, pliée, rangée. Mais elle est surtout dans mon cœur et dans ce qu'elle a déposé dans mon cœur. Et c'est ça qui est important. C'est important de te dire que je vais pas un psychiatre bouddhiste. C'est-à-dire que je ne fais absolument pas intervenir le bouddhisme, les notions bouddhistes dans la thérapie. J'offre simplement aux personnes le fruit de cette pratique, à savoir en termes d'attention, de présence à l'autre. Mais ce n'est pas une thérapie bouddhiste, pour moi ça n'a pas de sens.
Il n'y a pas de technique que vous avez apprise pendant ces années-là et que vous utilisez aujourd'hui en thérapie?
Des techniques, non, pas en thérapie, pas explicitement.
Des postures peut-être.
Des postures intérieures, de moi à moi et de ce que je souhaite transmettre à l'autre personne. Et surtout, ce que j'ai acquis là-bas, c'est une boussole intérieure qui permet vraiment d'indiquer une direction. Et cette direction, par le fait de la méditation, vous la trouvez en vous et vous trouvez cette dimension intérieure, cette lumière intérieure et qui vous, cet enseignement vous dit qu'il y a aussi la même lumière intérieure chez l'autre. Et ça apprend véritablement une connexion entre ma dimension intérieure et ta dimension intérieure en face. Ce n'est pas nommé, mais juste dans l'attitude, il se passe quelque chose qui crée ce qu'on appelle en thérapie l'alliance thérapeutique. Ce n'est pas absolument indispensable qu'il y ait cette connexion intérieure, mais en tout cas, c'est celle que j'ai apprise qui permet d'établir un lien en profondeur avec
la
personne.
Mais il n'y a pas de Bouddha dans un coin, ni dans le sens qui brûle.
Si, il y a des Bouddhas, mais les gens le voient peut-être comme de la déco. Moi, je ne vois pas comme de la déco. Mais c'est un support visuel qui est important pour moi, qui est un rappel du chemin, mais c'est dans le décor, mais les gens après...
Ils savent ? Vos patients
Maintenant, ils le savent.
Ah, maintenant, oui. Enfin, tous n'écoutent pas Europe 1, je vous rassure.
Le livre, ils le savent maintenant.
Ceux qui écoutent les grosses têtes sur RTL ne sont pas au courant encore. Hein,
mais ce qui est touchant, c'est que les patients ont lu le livre et il y a beaucoup de pudeur. C'est très peu mentionné, il y a beaucoup de pudeur parce qu'en fait, ça n'intervient pas vraiment tant que ça dans la thérapie. Depuis que le livre est sorti, ça n'interfère pas dans l'échange que nous avons établi préalablement.
Vous me dites, la robe est rangée, pliée dans un coin.
Ouais.
Elle peut toujours ressortir.
Un jour peut-être, je ne sais pas. Ouais.
Pour être moine, il faut vivre la vie monastique. On ne peut pas être moine dans la cité.
Alors, il y a des moines dans la cité, mais c'est pour ça que Lama Punso m'a demandé de rendre les vœux quand je suis parti en 2003, parce qu'il me dit que c'est trop difficile de tenir l'éthique monastique dans la fureur de la ville. Et il faut aussi que tu aies une vie affective, parce que
vous a libéré de la chasteté.
Exactement. C'est vraiment c'est rude la vie dans la vide, et il faut qu'il y ait, après la violence de l'accompagnement de la personne en fin de vie ou en deuil. Je travaille beaucoup avec les personnes en deuil après suicide, mort d'enfant, donc choses violentes. Il me dit, il faut que tu puisses avoir, quand tu rentres, l'affection qui soit, quand tu rentres à la maison, l'affection, la douceur. On peut pas tenir le choc sinon.
Je rappelle le nom de votre livre, S'aimer enfin, aux édition Albin Michel. On reprend l'histoire au début et là j'ai des questions à vous poser à chaque chapitre.
Europe 1, on de la raconte.
Ma première question de débrief se situe un peu en amont de votre histoire. Quand vous prenez cette décision, vous êtes un jeune psychiatre, vous venez de terminer probablement votre internat loin.
J'étais déjà installé, j'avais déjà une pratique libérale, oui.
Et vous exercez en centre de soins intensifs, dans l'accompagnement...
Soins palliatifs,
en accompagnement de mourants et de leur famille. Vous n'êtes pas à Sainte-Anne. Vous n'êtes pas à Maison-Blanche, autrement dit, vous n'êtes pas en hôpital psychiatrique. Non. Et je me suis dit que peut-être là, déjà, dans ce choix de faire plus de psychologie, au fond, que de psychiatrie, plus de psychothérapie que de psychiatrie classique, il y avait déjà un hiatus dans votre vie. Vous avez passé 9 ans à apprendre un métier que vous n'exercez pas totalement.
Totalement, non. C'est vrai. Il y a vraiment le point de charnière a été vraiment un stage que j'ai fait à la fin de mes études d'externe à l'hôpital de l'Institut Pasteur à Paris, où il y avait l'explosion en 87 de l'épidémie de sida. Et ça a vraiment été un choc de rencontrer pour la première fois la mort de personnes jeunes. Et ça m'a donc précipité dans quelque chose qui m'a, entre guillemets, je mets des guillemets, passionné sur... qu'est-ce que c'est les soins palliatifs? C'est quoi accompagner la fin de vie et accompagner les personnes en deuil après la perte de quelqu'un qu'on aime? Et c'est vrai que c'était... mais il y a des dimensions psychiatriques également dans la fin de vie. Hein. Il y a vraiment des aspects d'anxiété, de dépression, d'hallucination liés par exemple aux métastases cérébrales. Donc il y a vraiment tout un versant psychiatrique que j'utilisais en unité. Mais c'est vrai que le plus fort était sur toute la dimension psychologique de l'accompagnement et du deuil.
Mais c'est une des choses qui m'intéresse, c'est un peu accessoire par rapport à votre histoire, mais comment on peut faire 9 ans d'études pour finir par faire un métier, les soins palliatifs, que vous auriez pu exercer dans une autre spécialité de la médecine ?
Je ne sais pas, les chemins mystérieux de l'existence, mais en tout cas, c'est, je pense que c'est important d'être là où on sent qu'on est que c'est le plus juste pour soi.
Et c'est un secteur à forte charge émotionnelle.
Ouais, très forte.
Oui. Vous cherchiez la forte charge émotionnelle.
Forte charge émotionnelle et surtout le sentiment de toucher quelque chose de l'essentiel de l'existence. Véritablement, quand vous accompagnez des personnes en fin de vie, là, les masques tombent, les apparences tombent, les illusions tombent. Et on a véritablement une relation de cœur à cœur. Alors c'est éprouvant émotionnellement et c'est éprouvant aussi dans l'accompagnement du deuil. Une maman qui a perdu son enfant par suicide, c'est véritable. Mais là, on est vraiment au cœur du cœur de l'essentiel, de ce qui donne du sens à une vie. Et cette proximité est quelque chose qui me donne du sens à mon activité.
Mais ce faisant, vous vous mettez en difficulté et en danger à cause de la charge émotionnelle que porte votre métier à l'époque. Ouais, ouais. Vous auriez distribué des neuroleptiques à la va-vite dans un hôpital psychiatrique de la région parisienne. Ouais. La charge émotionnelle aurait sans doute été plus supportable et le burn-out évitable.
Le burn-out, oui, bien sûr, parce que parallèlement à
c'est
ça...
C'est moi qui fais votre thérapie, là, c'est drôle.
C'est adorable, merci beaucoup Christophe. Non, en plus de ça, j'étais engagé dans des associations d'accompagnement du sida, l'association Aide, mais aussi des associations d'accompagnement de parents en deuil. Donc c'était la totale. Je m'immergeais là-dedans, mais vraiment corps et âme. Mais c'est vrai que tout ce que j'ai appris, je ne l'ai pas appris sur les bancs de la fac. Je l'ai appris vraiment sur le terrain, à l'hôpital, dans des unités de soins palliatifs, à l'hôpital, dans des unités de maladies infectieuses. Donc c'est ça aussi qui met une touche particulière dans cet accompagnement. Dans ma pratique, elle n'est pas imprégnée de trop de théorie, elle est imprégnée de terrain et de pragmatisme, en fait.
De la même manière, quand vous faites donc ce choix de vous tourner vers le bouddhisme, on sent qu'une partie de l'intérêt de la chose vient du calme, de la sérénité, ouais, de la campagne, de la nature, ouais, dans laquelle vous allez vivre. Est-ce que vous auriez pu élever des chèvres dans le Larzac et est-ce que ça aurait ça aurait réglé une partie du problème?
Non, parce que clairement, ce que j'apprenais avec l'enseignement du Bouddha, c'était vraiment aller chercher le cœur du cœur de l'être, le cœur du cœur du réel. Ça va aussi loin que ça, l'enseignement du Bouddha. C'est véritablement comprendre la structure même du réel. Et ça, élever des chèvres peut-être mène à quelque chose de cet ordre-là. Mais là, véritablement, vous avez 84 000 enseignements qui permettent de décortiquer le réel, décortiquer le fonctionnement de l'esprit, décortiquer le fonctionnement des interactions entre les personnes.
C'est ça,
ça
qu'on
va
apprend
extrêmement profondément.
Vous dites 84 000 enseignements. Ouais. Il y a donc 84 000 enseignements à apprendre,
à consulter, on a des extraits, on a des commentaires et tout, mais il est dit traditionnellement qu'il y a 84 000 enseignements dans le corpus bouddhiste, avec 1001 commentaires en plus au fil des siècles. Donc il y a vraiment cette connaissance livresque qui vient de l'apprentissage, la connaissance par des transmissions, par des enseignements, et aussi cette connaissance, cette sagesse, je dirais, non conceptuelle, qui vient directement de la pratique de la méditation, qui était une part très très importante aussi à Dakpo. La méditation qui permet de poser l'esprit et afin que sa clarté naturelle se révèle à elle-même. Donc une dimension de sagesse déjà présente en nous qui se révèle à elle-même. Mais elle a besoin d'indications, d'enseignements pour pouvoir trouver son chemin et pas simplement se poser et laisser l'esprit se calmer de lui-même. Il y a plus que ça. Il y a véritablement un guide grâce aux enseignements qui se coupe, donc une sagesse conceptuelle qui se couple avec une sagesse non conceptuelle issue de la méditation.
Alors, le récit de votre premier contact avec le Dakpo est intéressant parce que vous choisissez de jouer...
Dakpo,
faut pas dire le, ni la, ni... Bon, c'est Dakpo. Votre premier contact avec le monastère, ouais, en tout cas, est intéressant puisque vous le décrivez avec beaucoup de franchise. Vous dites...
C'était déroutant.
Oui, que c'était une mascarade orientale qui, selon vous, n'avait rien à faire sous nos latitudes.
Oui, je voyais simplement la surface. Et là, en y retournant progressivement et puis finalement en prenant la décision d'y vivre, en grattant la surface, il y a véritablement quelque chose qui a une universalité, qui parlait en fait de l'être humain, de l'essence de l'être humain, de l'essence du cœur de notre être. Et là, il y a l'habillage bouddhiste, mais je serais allé au Japon, j'aurais l'habillage bouddhiste zen, qui est beaucoup plus dans la rigueur, le noir, le blanc, des choses très... ou alors j'aurais pu trouver l'habillage birman avec les robes monastiques orange. Mais c'est que de l'habillage culturel. Et au bout du compte, l'enseignement reste le même dans toutes ces traditions, que ce soit petit véhicule, grand véhicule ou Vajrayana, qui est vraiment le bouddhisme tibétain. Et on a véritablement l'essence qui est vraiment comment fonder son existence sur le bienfait d'autrui. C'est quand même ça l'essence du bouddhisme, avec une perspective qui est d'atteindre l'éveil, qui n'est pas quelque chose d'éthéré, mais qui est vraiment quelque chose de reconnaissance, reconnaître la nature de l'esprit, c'est-à-dire l'essence même de l'être en toi, en moi, dans tout ce qui existe.
Atteindre la pleine conscience, oui. Ça peut être une chose profane. Il y a d'ailleurs des psychiatres aujourd'hui qui pratiquent l'enseignement de la pleine conscience.
C'est le premier pas de la méditation. Oui.
Déconnecter complètement de ce que vous appelez la mascarade orientale.
Oui. C'est vrai, John Kabat-Zinn qui a créé la méditation de pleine conscience est parti de la méditation et l'a désossé, je dirais, la composante spirituelle. C'est donc les premiers pas absolument utiles et vraiment indispensables. C'est apprendre l'alphabet si on veut pouvoir lire Guerre et Paix.
J'ai été très touché par le récit de ce que vous avez appelé le détricotage de votre vie au moment où vous décidez de tout lâcher, ce qui implique d'abandonner d'abord l'argent.
Ouais.
C'est dur ?
Non. Non, sincèrement non. Je viens d'une famille très très modeste, hein, supra modeste. Donc vraiment, mon grand-père était docker au port du Havre. Vraiment, il n'y avait pas du tout d'argent. Donc j'ai été élevé dans un environnement avec très peu d'argent. Donc c'était pas un problème de quitter ça.
Ça participe pas du tout, dites-le moi honnêtement, de la décision de redevenir psychiatre.
Non, vraiment pas du tout. Bon. Parce que à Dakpo pendant ces deux années, j'avais zéro euro, parce que comme on dit, c'est l'euro, zéro euro, zéro centime, et le bonheur qui était le mien ne se comptait pas en tant qu'un nombre de zéros sur le compte en banque.
Abandonner le sexe.
Ouais.
Est-ce que c'est dur?
Oh, les gens auraient envie que je dise oui. C'était difficile.
Non, je vous oblige jamais.
Ça n'a pas été difficile. C'était étonnant. J'étais étonné moi-même de ne voir émerger aucune frustration, mais pas du tout. Mais faut me dire, mais attends, tu vas être un petit peu frustré, tu vas être un peu tendu. Non, je suis rentré comme dans un gant de velours et c'était facile. C'était facile aussi parce qu'il y avait toute une communauté qui était présente. Il y avait pourtant dans la communauté des laïcs qui avaient des vies relationnelles, des vies de couple, mais il y avait quelque chose qui se faisait qui rendait ça extrêmement paisible et serein, comme si, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'histoire, il y avait cette énergie sexuelle non canalisée dans la sexualité passée à l'acte, permettait de nourrir quelque chose d'autre. Mais là encore, c'est toutes les subtilités du chemin spirituel. Il y a tout ce qu'on sait consciemment, mais ça imprègne par capillarité des dimensions de l'être qui nous échappent, je crois. Et donc, vraiment, non. Ça, il n'y a pas eu de difficulté.
Ça n'a pas participé non plus à votre décision de revenir à la vie
active. Pas du tout, mais je vous assure qu'en revenant, c'est difficile, moi ça m'était... Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter là ? Mon Dieu. C'était difficile de replonger dans la vie sexuelle parce qu'il y a une espèce de sevrage, on pense que le désir, c'est immédiat. Non, il y a quelque chose de l'ordre de réapprentissage de la sexualité. C'était vraiment troublant ce retour aussi.
Alors l'idée d'aider l'autre est quelque chose qui vous traverse, j'ai envie de dire probablement depuis vos premières années de médecine, jusqu'à...
C'est ce qui vous a mené à la médecine d'ailleurs.
C'est ce qui vous a mené à la médecine jusqu'à aujourd'hui. Je me disais que spontanément comme ça, je n'aurais pas accolé ça au bouddhisme. Aider l'autre est un des grands projets de la chrétienté.
Et pourtant, hein, Lama Gendun, qui a été envoyé par le 16e Karmapa pour créer Dakpo Kagyuling, disait toujours... puissais-je fonder ma vie sur l'accomplissement des bienfaits des autres. Donc c'est véritablement le propos même du bouddhisme. Donc il faut sortir de cette spiritualité bouddhiste très égocentrée où je fais ma paix pour moi. Non, l'essence même de l'enseignement du Bouddha, c'est le fait même de me donner la paix n'a de sens que si je l'offre en retour. Donc c'est porté par une motivation pour l'autre, pour inspirer l'autre. C'est pas lui donner l'éveil, mais c'est lui inspirer la personne pour qu'elle parte à la recherche elle-même de sa propre lumière qui est là, c'est ce qu'enseigne le Bouddha. Votre lumière est là, mais elle ne va pas venir vers vous, il faut que vous alliez vers elle. C'est tout le sens de la quête spirituelle. Donc vraiment, c'est le cœur du bouddhisme.
Il y a un bouddhisme vulgarisé manifestement
qui se trompe petit peu, qui s'appelle pas du bouddhisme.
Qui est du zen.
Même pas du zen, mais qui est vraiment quelque chose où on pense que c'est sans trop centrer sur soi. C'est une erreur. C'est faire la paix pour soi. Oui, c'est indispensable, mais afin d'inspirer autrui. Comme dit le Dalai Lama, si tu veux la paix dans le monde, fais d'abord la paix en toi. Il y a une espèce d'alignement intérieur qui permet après de pouvoir être d'autant plus présent à l'autre et de l'aider du mieux qu'on le peut. On le décline dans l'approche chrétienne, dans toutes les religions en fait, par de cela. Il y a une universalité au bout du compte qui me plaisait là-dedans, qui rejoignait tout le courant de l'humanité, quelle que soit l'étiquette spirituelle qu'on lui donne.
Alors évidemment, vous écoutez, on pourrait penser que le bouddhisme conduit directement à la sainteté.
Non.
Et qu'il n'y a pas dans le bouddhisme ni bassesse, voilà, ni compromission, ni médiocrité.
Il y a des êtres humains, et ces êtres humains sont bas, sont médiocres, sont violents.
Rassurez-moi, il y a des mesquineries dans un monastère.
Complètement, bien sûr. Et c'est ça justement le matériau premier qu'on utilise. Parce que quand vous vivez dans une communauté, vous ne vivez pas complètement éthéré sur un coussin à 2 mètres du sol. Vous êtes confronté à des gens avec des mauvais caractères, avec des personnalités difficiles. Et c'est justement le matériau. Mais quand je vous parlais des 84 000 enseignements, il y avait véritablement des enseignements très pragmatiques sur comment on travaille son esprit pour le transformer, comment on travaille les émotions, comment on apprend à se distancier par rapport à tous ces mouvements chaotiques de l'esprit. L'enseignement du Bouddha parle quand même d'une première vérité qui est la vie est dukkha. Dukkha, c'est un mot sanskrit qui signifie la souffrance, donc la souffrance psychologique, la souffrance relationnelle. C'est le dukkha d'un divorce, le dukkha d'un enfant qui est battu, c'est le dukkha d'un viol, etc. Donc vraiment, il y a toute cette vérité de la souffrance et ses enseignements pour véritablement essayer de comprendre d'ailleurs l'origine de cette souffrance-là et essayer d'aller au-delà.
Est-ce qu'il existe une hypothèse que vous redeveniez moine d'ici la fin de votre vie terrestre ?
Oui, peut-être quand je serai un très très vieux monsieur. Oui, mais c'est pas le projet pour l'instant. Je suis revenu pour les bonnes raisons et pour vraiment accomplir ce chemin de revenir dans l'aide aux personnes. Clairement, et de continuer à écrire et de pouvoir partager comme on vient de le faire aujourd'hui.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.